L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'EM, l'émission en direct à midi, en rediffusion le soir même à 18h. Aujourd'hui, c'est donc le troisième épisode consacré au biotope très spécifique de la mare. Nous avions observé notre petite étendue d'eau au printemps, puis en été en juin. Nous avions parlé de sa végétation spécifique, mais aussi des insectes de la faune, avec notamment les grenouilles qui bénéficient de programmes de protection. Et là, eh bien, c'est l'automne qui pointe le bout de son nez. Et votre animatrice environnementale préférée, Anouk Bonjean, est de retour parmi nous pour poursuivre nos observations autour de la mare. Bonjour Anouk.
Bonjour.
Comment ça va ?
Ça va très bien.
Bon, alors on va s'approcher tranquillement de notre petite mare. Alors, qu'est-ce qui change déjà physiquement en automne au premier coup d'œil ? Quid de la végétation ?
Alors... ce qui va changer au premier coup d'œil, c'est le niveau d'eau, parce que le niveau d'eau va remonter. La végétation, elle va jaunir, brunir, et puis elle va tout doucement disparaître. Elle va retourner dans le, elle va retourner au fond de l'eau. Elle va même aller tout court dans le fond de l'eau, parce que voilà. Donc là, les plantes s'endorment. Celles qui ont un bulbe vont faire redescendre la sève dedans et puis mettre à l'abri toutes ces réserves d'énergie du froid dans la vase de la mare. Il y a celles qui n'ont pas de bulbe et qui ont fait des graines. Donc toutes celles-là, bah, les graines vont aller aussi dans la vase et puis elles seront à l'abri du froid. Et voilà, donc ça c'est pour les plantes.
Est-ce qu'il y a des plantes qui vont quand même continuer à rester là et peut-être même de nouvelles plantes qui vont surgir en automne ?
Non, très peu. L'automne, c'est vraiment pas la saison des plantes. Il y a quand même les typhas, les roseaux, les joncs qui vont rester verts, qui vont rester là. Mais sinon, la majeure partie du temps, ça rentre en dormance, on appelle ça la dormance.
Il n'y aura pas de fleurs observables en automne ?
Non.
Rien du tout ?
Non.
D'accord. Alors justement, on parlait de l'eau, mais pour moi, j'avais deux cas de figure. C'était le cas où, comme aujourd'hui, on a une chaleur qui est hyper étouffante. Et je me disais, bon, alors soit il y en a de l'eau, soit il n'y en a pas. Et histoire de remettre un petit peu en tête le rôle de l'eau dans la mare, est-ce que vous pourriez nous rappeler s'il y a une importance de la quantité d'eau, que ce soit en termes de volume ou en termes de hauteur d'eau dans une mare ? Est-ce que c'est...
Oui. Oui, c'est très très important. En fait, plus il y a d'eau, moins il y aura de choc thermique. Enfin, de choc thermique, on dit.
D'accord.
C'est peut-être pas ça le terme exact.
Choc thermique, on comprend bien.
Choc thermique, ouais. Donc en fait, la hauteur d'eau, il faut s'imaginer une colonne, en fait, une colonne d'eau. Et au fond, c'est plus sombre et plus frais. À la surface, c'est plus clair et voilà, plus chaud. Tous les organismes vont s'organiser dans cette colonne d'eau en fonction de ce qu'ils préfèrent. Et plus on a d'eau et plus on a de choix dans cette colonne pour aller se placer, quoi, quand on est un être vivant. Voilà. Et après, la mare, les écosystèmes qui vivent dans cet endroit, la mare, c'est un écosystème qui est fait pour avoir des niveaux d'eau variables. Et donc, tous les organismes vivants dans cet écosystème sont adaptés à des niveaux d'eau qui fluctuent. Donc, les plantes, elles ont des tiges qui sont adaptées à ça. Parce qu'il y a quelque chose aussi qui varie, ça va être l'oxygène, en fait. C'est comme une pièce fermée en fait. La quantité d'oxygène, elle est moins renouvelable que avec une rivière par exemple où l'eau est circulante, enfin où elle circule. Et donc Bah pour les animaux, il faut être adapté à ça, quoi. Donc, par exemple, les amphibiens, bah eux, ils ont deux méthodes de respiration, une par la peau et une par des poumons, des petits poumons, quoi. Ou alors les branchies, quand ils sont têtards. Les têtards, ils respirent avec des branchies et par la peau. Voilà, ils sont tout à fait adaptés. Et si la mare venait à s'assécher complètement, eh ben, ils ont des phases de dormance et ils peuvent soit se replier, aller se mettre ailleurs dans un endroit où ils seront tout à fait adaptés pour survivre, dans de la terre humide, voilà, ou alors dans la vase, ou alors ils rentrent en dormance dans un état de conscience modifié là, et ils attendent que l'eau revienne, quoi.
D'accord, mais est-ce que ça veut dire pour autant que la mare elle est plus fragile quand il n'y a pas d'eau ?
Bah oui, effectivement, c'est un écosystème qui fonctionne à plein quand il y a de l'eau. Mais il faut pas qu'il y ait de sécheresse trop répétée, par exemple. Il faut pas que la mare, elle soit... Enfin, des mares qui se retrouvent à sec tous les ans, elles auront une autre faune, une autre flore que des mares qui sont en eau et à sec une fois de temps en temps.
Ça veut pas dire moins en quantité, ça veut dire juste différente.
Ouais, c'est différent, ouais. C'est ça.
Donc on va essayer de s'imaginer notre mare complètement sèche. Donc j'imagine que dedans, on va voir la vase qui a craquelé, j'imagine, avec des espèces de petites failles comme ça.
Ça dépend, non, parce que souvent, il y a la couverture végétale qui est par-dessus et du coup, le soleil ne vient pas craquer la couche de vase parce que c'est protégé des rayons du soleil par les plantes en fait, qui se déposent dessus.
Ça peut être profond, en fait, une hauteur de vase dans une mare ?
Ah bah ça dépend de l'entretien. Ça dépend.
On en parlera tout à l'heure dans l'entretien. Okay. Et donc, qu'est-ce qui va se passer quand une mare est sèche et quand les pluies qu'on imagine en automne vont tomber ? Qu'est-ce qui va se passer dans la mare ?
Bah, l'eau va monter et puis voilà, en fait. Hein,
ça se réveille ?
Non. À l'automne, ça s'endort. Il n'y a rien qui se réveille à l'automne, quoi.
Ça fait que se remplir.
Ouais, après, il y a la question du plancton, donc phytoplancton, zooplancton, mais ça, c'est sûr qu'il y a ces questions-là, mais ça fait des espèces de blooms, en fait, on appelle ça, c'est des explosions de vie, et après, voilà, ça, c'est des moments... Enfin, normalement, à l'automne, c'est une saison où ça s'endort, où ça se re-remplit et où ça s'endort. Par contre, il peut y avoir une petite... il m'est déjà arrivé d'observer une autre saison de reproduction des amphibiens, si les conditions météo le permettent, qu'il y a beaucoup d'eau et que les températures sont suffisamment douces. Il m'est déjà arrivé d'observer des œufs de tritons, par exemple. Donc ça, c'est pas du tout dans les descriptions d'espèces des cahiers naturalistes, on n'a pas du tout cette période-là pour la reproduction, mais il m'est déjà arrivé de le voir, quoi, par exemple. Bon, c'est très rare, hein, mais ça se peut. C'est une saison qui pourrait ressembler au printemps, mais à l'envers, quoi.
Oui, c'est ça. Mm. Vous m'aviez dit, en préparant l'émission, que l'automne était une saison propice à la prédation, et surtout, en ce qui concerne les araignées.
Ouais. Oui, parce que donc les insectes ont émergé au printemps. Ils ont fait toute leur vie, ils ont fait toute leur vie là, ou alors ils ont pondu machin, mais bref, ils ont profité tout l'été. Et là, on arrive dans des conditions difficiles pour les insectes parce que ils sont dépendants des températures extérieures pour leur organisme en fait. Vous regarderez une fourmilière. Une fourmilière, quand il fait chaud, elle bat son plein. Et quand il fait froid, il n'y a pas d'activité parce que les fourmis, elles dépendent de la température extérieure. Et c'est le cas pour tous les insectes. Et donc, voilà, la pluie, le froid, ça rend les choses difficiles pour les insectes. Et puis, c'est la fin de vie des libellules, des papillons qui ont fait leur vie, quoi, qui vieillissent. Et ça, pour les araignées, c'est une aubaine, parce que elles tendent leur toile, les insectes fatigués font beaucoup moins attention, ils sont peut-être même un peu déjà... Enfin, ils sont beaucoup moins vifs, et donc elles les attrapent à ce moment-là. Et donc, à l'automne, c'est la saison des araignées. Elles vont tisser des toiles un peu partout. Ouais. Et
On en voit plein dans les jardins.
C'est normal, c'est la saison.
C'est vrai qu'on en voit beaucoup, ouais.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on trouve comme type d'araignée ?
Alors, il y a les pères, c'est toute une famille avec plein d'espèces. Et ça fait des toiles qu'on appelle géométriques. Donc, en fait, c'est les fameuses toiles qu'on voit tendues, bien dessinées, là, ces toiles-là.
Comme Spider-Man.
Oui, c'est ça. Je réfléchis quand même, mais oui, c'est ça. Donc, Spider-Man est un épère, en fait. Et mais du coup, l'épère, c'est une des plus courantes, quoi. Il y en a toutes sortes, hein. Il y en a des petites, oui. Des grosses. Elles ont toutes des beaux dessins sur l'abdomen, elles sont très jolies. Et le soir, elles vont remanger la toile qu'elles ont tendue le matin. Donc c'est important de ne pas les séparer de leur toile, parce que sinon, elles n'ont plus de soie. C'est une quantité finie de soie et elles meurent de faim. Donc il faut vraiment faire attention, quand on regarde les araignées, de ne pas les séparer de leur toile.
Ça ressemble à quoi, une paire ?
Une épère.
C'est épère.
Il y en a plusieurs, sortes. Hein. Mais c'est celle que vous avez dans le jardin.
Elles sont en quoi ? Elles font à peu près 3-4 cm de diamètre.
Il y a plein de tailles.
C'est vrai, il y a plein de tailles. C'est vrai, c'est variable à ce point-là ?
Ouais, quand même. Il y en a des très grosses, il y en a des toutes petites. Il y en a une qui est vraiment très très belle, s'appelle l'argiope frelon, que vous pouvez trouver près de la mare, et qui est assez grosse. Elle peut faire 10 cm. Elle est noire, jaune rayé, avec du blanc aussi. Elle est superbe. Et en fait, elle fait une toile et on dirait qu'elle l'a cousue avec du fil blanc. Il y a une espèce de grosse couture sur le dessus. Et elle ne sort que l'automne. Enfin, je ne sais pas où elle passe le reste du temps, mais elle est magnifique. Elle est vraiment très belle. Celle-là, je l'aime bien. Et après, majoritairement, c'est celle-là. Après, dans les maisons, évidemment, on a d'autres, mais c'est moins intéressant que... Enfin, c'est pas que c'est moins intéressant, mais là, ce qui nous intéresse, c'est la mare.
C'est la mare, voilà. Ouais. Alors, elle va manger quoi ?
Des insectes.
N'importe
quoi.
Donc,
des mouches, des moustiques, des libellules, des papillons, tout un tas d'insectes, quoi.
Et d'autres araignées aussi ?
Ah oui, elle peut manger d'autres araignées.
C'est cannibale ?
Ouais.
D'accord. Et alors, ça va se passer... C'est quoi son cycle de vie ? Donc, elle va se reproduire à quel moment ? Comment elle s'accouple ?
Eh bien, en fait, le mâle est plus petit que la femelle. Elle s'accouple, je crois qu'il n'y a pas trop de saison. Enfin, je sais. Non, alors là, je ne sais pas la saison. Après, elle pond des œufs qu'elle garde avec elle, en petite pelote. Alors, il y en a qui ont des... Il y a des mœurs assez particuliers selon les espèces aussi, hein, pour les œufs sur les araignées. Et après, je sais que j'avais lu aussi certaines espèces, le mâle se fait manger par la femelle, donc pour ne pas se faire manger, il offre un petit cadeau à la femelle, genre un insecte qu'il a embobiné dans un...
Il se barre en courant après.
Et après, ouais, pendant qu'elle mange, tac, ils font leur affaire, et là, elle a mangé, donc elle s'en fiche, et donc lui, il peut repartir. Mais sinon, elle peut dévorer le mâle. Et après, il garde les œufs, et quand les œufs sont prêts, là, c'est des petites araignées tout de suite qui sortent, quoi. Et après, pour grandir, elle a quand même... elle mue.
Une seule fois ?
Ah non, plein de fois. Mais c'est vraiment minuscule au début, hein. Ouais.
On peut les observer facilement, les petites poches, les petits nids d'araignées ? C'est près d'une toile, en général ?
Selon les espèces, ça dépend. Il y en a, ils les mettent dans des feuilles, mais ils sont toujours tout prêts. Il y a celles qui vivent, là, les araignées, dans des chaussettes, et celles-là mettent les œufs au fond de la chaussette, par exemple. Mais en tout cas, parce que c'est très, très, très vaste, hein, les araignées. Il y a plein d'espèces, et donc elles ont des mœurs assez particulières. Mais en tout cas... même chez soi, c'est facile à observer. C'est assez chouette à observer, en fait. Bon, tout de suite, les araignées, c'est peu ragoûtant, donc c'est difficile de faire admettre à quelqu'un qu'une araignée, c'est chouette. mais si, en fait, à observer, ça peut être assez rigolo, quoi.
Les araignées épaires, on peut les voir toute la journée, ou il y a plutôt des moments de la journée
On peut les voir toute la journée.
Ouais. Le
matin... certaines vont se cacher sur le côté, certaines sont au milieu, mais la majeure partie du temps elles sont au milieu. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est de regarder la longueur des fils qui tendent la toile, parce que s'ils sont longs, ça veut dire qu'il va y avoir du vent et de la pluie, et s'ils sont courts, ça veut dire qu'il va faire beau. Ça, c'est marrant, parce que ça peut vous faire une petite station météo pas chère.
Oui, puis comme elle mange sa toile...
Elle la refait tous les jours.
Elle la refait tous les jours, donc elle s'adapte à tous les jours.
Ouais, c'est ça.
Ah ouais, c'est rigolo.
Ouais, c'est marrant.
Et alors, c'est une idée reçue, le fait de tapoter avec un petit bout de bois pour la faire venir, l'araignée, si on veut l'observer ou...
Ah bah, alors, il faut utiliser un... comment ça s'appelle, ces trucs de musicien, là, un instrument pour donner le la.
Un diapason ?
Ouais, ça. En fait, il faut tapoter et en même temps faire sonner le diapason, parce que ça va lui faire croire qu'il y a un insecte qui s'est pris dans la toile, quoi.
Ah, ça va rentrer en résonance avec la toile, c'est ça ?
Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Le diapason, c'est exactement la même fréquence que l'insecte.
Ah oui ? Ouais. On est sûr que ça marche.
Ben, voilà. Il faut essayer, c'est rigolo. C'est rigolo d'essayer. Quoi. Le meilleur moment, c'est vraiment le matin, parce qu'il y a la rosée sur la toile.
Comme ça, on peut voir les toiles facilement.
On peut voir les toiles. Et il y en a un peu à tous les niveaux. Hein. C'est pas... Mais bon, c'est au niveau du... Enfin, les plus hautes sont au niveau du genou, quoi.
Donc, dans notre coin, on n'a pas d'araignée dangereuse pour nous ?
Non, aucune. Non. Il n'y en a pas qui piquent, d'ailleurs. Parce qu'on parle souvent des piqûres d'araignées, mais ça, c'est une légende, par exemple.
C'est plus des morsures ?
Non, il n'y a pas du tout.
Elles ne goûtent même pas, tac.
Ben non, rien du tout. Non. C'est... Je ne sais pas. C'est marrant parce que j'ai cette discussion quand même très souvent. Hein. Et j'en arrive à douter moi-même tellement tout le monde est convaincu que les araignées mordent. Et j'en arrive à douter moi-même, à me dire, mais pourtant, je regarde qui dit ça ? Mais c'est des chercheurs du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. C'est pas non plus au Café du Commerce que j'entends ça, quoi. Mais pourtant, des fois, j'en arrive à douter parce que j'entends tellement d'histoires. Si, je suis sûre, c'est une araignée qui m'a mordu.
Alors, on a parlé quand même beaucoup des amphibiens depuis le début.
Ouais.
Et puis il y en a une, enfin il y a un amphibien. Alors je sais pas du coup si c'est un amphibien ou pas, mais vous allez m'éclairer. Ben, c'est la salamandre. Et quand il pleut en automne, moi j'en vois toujours à côté de chez moi. Puis des belles, hein, des grandes salamandres,
ouais.
Des noires et jaunes.
Oui, alors c'est la saison des salamandres, l'automne. En fait, elles vont se reproduire le 1er novembre. Je dis le 1er novembre parce que c'est vraiment un 1er novembre. Avec une météo type la brume, la pluie, bien humide, là. Et la nuit, on en voit, ouais, dans les talus. Voilà. Elles vont se reproduire plutôt quand même. Elles aiment vraiment bien les talus et elles ne vont dans l'eau que pour se reproduire. Donc dans la mare, on n'en a pas tant que ça parce que très souvent, on est plus loin des talus. Mais si on a une mare avec des talus autour, c'est possible de la trouver. Hein. Et sinon, elle aime bien les lavoirs, les sources, ce genre de choses, quoi.
Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que si vous dites qu'elle va dans une mare ou quelque chose comme ça pour se reproduire, alors que chez moi, j'en ai pas du tout. Comment se fait-il que j'arrive à observer des salamandres ?
Vous n'avez pas de talus ?
Non, oui, j'ai des talus, oui, parce que j'imagine qu'elles résident là.
Ouais.
Mais elles sortent pour se nourrir, elles ne restent pas dans le talus, elles peuvent aller loin comme ça ? Le talus, il est quand même assez loin, il est à quand même une trentaine de mètres.
Oui, tant que ça reste humide après, mais il leur faut le talus, quoi. Et après, se nourrir, oui, mais émigrer aussi un peu, quoi, parce que... En fait, on a l'image de se nourrir comme nous, on mange trois fois par jour, quoi. Mais c'est pas le cas pour
c'est
les.
Vrai.
Ouais, c'est vrai. Hein, mais c'est pas vrai. Le cas pour une salamandre, bah oui. Par exemple.
Pour tous les animaux, presque, je suis sûr. Bah, ils mangent quand ils ont faim, quoi.
Bah ouais, puis ils mangent beaucoup moins, en fait. C'est pour ça que les salamandres, elles ont beaucoup disparu et qu'elles sont en train de disparaître, c'est parce que comme on arrase les talus et qu'on replante un peu des haies à plat, puis de toute façon, le temps que ça pousse, on continue de dégommer des talus. Bon, bah, du coup, la salamandre, elle n'a plus de milieu de vie, en fait. En plus, elle est sensible aussi aux polluants. Et donc, voilà, tout ça mis bout à bout, ça ne l'aide pas beaucoup. Ce n'est pas des grandes voyageuses, hein, c'est assez lent.
Oui, c'est très lent, ouais.
C'est très lent, mais par contre, je pense qu'elle bouge quand même, parce qu'en fait, chaque espèce a une dynamique. Et c'est pour c'est ce qu'on appelle la répartition. Enfin, c'est un moment donné, l'espèce elle doit se déplacer parce que sinon il y a plus de mélange génétique et à partir de là, bah, l'espèce dépérit. Donc il y a toujours un moment où l'espèce il y a des individus qui migrent pour aller rencontrer d'autres individus, d'autres congénères, quoi.
Et ça mange quoi alors?
Les salamandres, elles vont se nourrir plutôt de bestioles qu'il y a dans la litière.
Pas du chat ?
Du talus, non. La litière, c'est la couche de déchets des arbres dans le talus. Donc là, il y a des colamboles, des vers de terre, des limaces, il y a des petits acariens, des petits machins. Et elle va manger ça plutôt, en fait. Voilà. Après, dans le milieu aquatique, elle doit... Parce que donc, toute une partie de sa croissance, le début de sa vie se passe sous l'eau. La salamandre, elle va mettre bas ses petits dans l'eau. Je dis ça parce que ce n'est pas des œufs qu'elle pond, en fait, elle est ovovivipare. Ça veut dire qu'en fait, elle a ses œufs à l'intérieur dans un cloaque. Et quand les œufs sont prêts, elle va mettre ses petits à l'eau directement. Et d'ailleurs, elle peut se noyer. Hein. C'est-à-dire qu'elle n'est vraiment pas aquatique, hein, la
c'est
salamandre.
C'est pas nager.
Non. Enfin, elle nage mal, quoi.
Elle nage très mal, oui.
Voilà. Et des fois, elle se fait attraper par un crapaud qui veut se reproduire. Et puis, pouf, il l'emmène au fond de l'eau, puis il la noie, quoi. Enfin, c'est pour dire qu'elle n'est vraiment pas aquatique. Et donc, elle pose ses œufs et les petits, eux, ils vont faire leur vie dans l'eau. Et ce qui est formidable dans l'écosystème aquatique, c'est qu'il y a énormément de proies et qu'elles sont très nutritives, en fait. Et c'est très chargé en protéines, tout ça. Il y a plein à manger, en fait, dans l'eau. Ce que je veux dire, c'est que si elle utilise l'eau comme support pour le début de sa vie, c'est aussi parce que dans l'eau, il y a beaucoup plus de nourriture. Mmh. Voilà, c'est ça.
Ah,
et
oui.
Après, une fois qu'elle a été adulte, là, elle se nourrit sur terre, quoi.
D'accord.
Voilà, elle change de régime alimentaire, mais c'est lié aux besoins de croissance, en fait. Une fois qu'elle a fini sa croissance, après... Et ça vit vachement longtemps, une salamandre.
Quelques petits conseils sur l'entretien de la mare en automne.
Oui, alors j'aurais plutôt plaidé pour un non-entretien. Non, 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 je rigole. Non, en fait, une mare, ça nécessite un entretien. Pourquoi ? Parce que c'est un trou qui va se combler. Et un trou qui se comble après, bah, ça va faire que la mare, elle sera bouchée. Donc à un moment donné, il faut entretenir. Le moins possible, avec parcimonie. On n'est pas obligé de faire et ce n'est pas une urgence. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est parcimonie. Et le deuxième terme qu'il faut retenir, c'est automne. On planifie en automne les travaux qu'on va pouvoir faire en hiver. On a à peu près du mois d'octobre jusqu'au mois de janvier et pas au-delà pour intervenir sur la mare. Donc voilà, on n'a pas une très grande amplitude, voilà, c'est à ce moment-là. Et c'est vraiment pas sorti de cette période-là, on n'intervient pas.
C'est une histoire de température, et puis d'ensoleillement, j'imagine.
Bah, surtout des organismes qui sont dedans, parce que là, on est dans une période de plein repos. Et donc voilà, avant de procéder à un entretien, donc, qu'est-ce qu'il faut faire de toute façon? En gros, il faut curer. Une mare, c'est ça le principal entretien, parce qu'après le reste, c'est... Voilà, aménager deux, trois trucs, mais voilà. Donc... Pour curer la mare, on va s'assurer déjà qu'il n'y ait pas de reproduction en cours. Comme je parlais tout à l'heure, ça m'est déjà arrivé d'observer des reproductions de tritons en automne. Donc on s'assure bien qu'il n'y ait pas d'œufs ou de larves, quoi que ce soit. Donc on fait une petite pêche, on regarde. S'il y a, hop, on repose et on n'intervient pas. S'il n'y a pas, là, on procède à un tiers. Un tiers par un tiers par un tiers. Donc on fait un tiers, l'année d'après on fera un tiers, l'année d'après on fera un tiers. On pose la vase sur le côté et on laisse reposer quelques temps et hop, après on peut évacuer la vase. Et qu'est-ce que je voulais dire ? On peut aussi donner cette vase à quelqu'un qui a créé une mare et qui n'a rien pour l'ensemencer. Parce que dans votre vase, il y a déjà... des graines qui vont pouvoir servir aux autres mares, quoi. Voilà, et sinon, il y a quelque chose qui se passe aussi en automne, tout le monde le sait, c'est que les arbres perdent leurs feuilles. Donc si vous avez des feuilles qui viennent se déposer sur la mare, vous pouvez ou alors tendre un petit filet ou les enlever régulièrement pour pas qu'ils aillent dans le fond et qu'ils comblent plus que de raison la mare, quoi. Voilà. Mais ça, c'est quelque chose à faire exceptionnellement. Hein. C'est pas à faire tous les ans. Voilà. C'est pas... Et sinon, il n'y a rien à faire. Et j'insiste parce qu'en fait, on veut trop souvent faire. Et on ne sait pas ne rien faire. Et ça vaut vraiment le coup de laisser de la place aux non-humains. aux autres organismes, en fait. On leur laisse la place et on arrête d'aller mettre notre nez tout le temps partout. Voilà. de la non-gestion.
Mais je me posais une question. Si on a un problème avec la mare, ça peut être quoi? Une question de taille? Je sais que quand on fait de l'aquariophilie, c'est tout de suite c'est beaucoup plus difficile de créer un biotope avec quelque chose qui est facile d'entretien dans un petit aquarium que dans un grand.
Ouais, c'est pareil pour la mare.
C'est pareil pour la mare.
On aura beaucoup plus de travail dans une petite mare que dans une grande mare. Après, une mare, c'est fait pour être petit, hein. Sinon, c'est un étang.
On avait dit pour la première émission que une mare correcte, c'est un haricot de 3 mètres, environ 3 mètres carrés.
Ouais, c'est ça.
Sur 80 cm de profondeur.
Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, tout à fait.
Voilà.
Après, il y a un problème qui peut se passer avec la mare, c'est la bâche, quoi. Parce que, en fait, on n'a pas trop de solutions pour faire sans bâche.
Parce que le risque, c'est du coup que la terre qui se trouve sur les bords revienne à l'intérieur.
Bah, puis c'est surtout que la bâche se perce. Et ça, c'est du travail après, hein. Quand la bâche est percée et qu'il y a une fuite, là, c'est quand même du travail. Mais bon, ça se fait, hein. Ça fait partie de la vie de la mare, en fait, à un moment donné.
Et si on veut faire une mare à la maison, donc avec une bâche, est-ce qu'on a le droit d'aller prélever de la vase dans un
Oui, bien sûr.
Une clairière ou je
oui,
sais pas
oui,
quoi.
Oui, tout à fait.
C'est autorisé, ça?
Ouais, ouais.
Malgré que ce soit un espace protégé, on peut faire.
Ah bah non, bah après, il faut faire attention où on fait quand même.
alors, à qui on peut demander pour...
À moi. Vous m'envoyez un message et je vous donne des contacts d'autres propriétaires de mare. Et comme ça, c'est plus facile.
Voilà.
Et sinon, si vous avez repéré un lieu, un espace naturel où faire, vous me demandez avant. Moi, je sais quels sont les espaces protégés, s'il y a des espèces... qui sont sensibles et tout ça, j'ai les informations.
Et donc, pour contacter Anouk, ce sera sur le site de Eaux et Rivières de Bretagne. N'hésitez pas, donc, puisqu'elle vous donne son feu vert pour si jamais vous avez des questions. Merci beaucoup, Anouk, d'être venue.
Merci à vous.
Et on se retrouvera quelque part en fin d'année pour le dernier épisode sur nos observations de la mare.
Merci beaucoup.